Chers frères et sœurs et chers amis, notre titre et étude pour aujourd'hui, c'est la suivante. Peut-on parler à Dieu ? Une troupe de funambules venait d'arriver dans un village et se préparait pour la représentation qui devait avoir lieu le soir même. La corde était déjà tendue entre les deux piliers lorsque une femme passa par là avec son enfant. Celui-ci se tourna vers sa mère et lui demanda « Maman, est-ce qu'on peut vraiment marcher sur la corde ?» Et sa mère de lui répondre « Bien sûr qu'on peut le faire, mais seulement... si on sait le faire, moi, je ne sais pas le faire. » Ceci m'amène, chers amis, à ma première remarque. On peut parler à Dieu si on sait le faire. Dieu étant présent, on peut lui parler. Mais beaucoup d'entre vous doivent admettre comme la mère de l'enfant, « Je ne sais pas le faire. » Bien sûr qu'on peut parler à Dieu. Vous pouvez parler à Monsieur Dupont. Pourquoi ne pourriez-vous pas parler au Dieu vivant ? Il est là. Mais savez-vous le faire ? Très jeune, on m'a appris le cantique suivant. Je dirais que deux petites strophes. « Petit enfant, quelqu'un nous aime par-delà le ciel bleu. » Et, chers amis, j'ai pensé ceci, que cela n'a pas de sens de continuer à prier, car jamais je ne pourrai crier assez fort pour que Dieu m'entende par-delà le ciel bleu. Bien des gens sont perplexes et se posent la question « Où donc est Dieu ? » Par-delà le ciel bleu, tout là-haut, et à quelle distance ? À des millions de kilomètres d'ici. Laissez-moi vous répondre le plus clairement possible. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que Dieu se trouve par-delà le ciel bleu. Au contraire, elle affirme qu'en réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. On y lit cette prière. « Tu es derrière moi et devant aussi. » Ceci ne se comprend que si l'on tient compte du fait que nos sens ne peuvent percevoir qu'un monde tridimensionnel et que Dieu n'est pas limité à ces trois dimensions, tout en étant bien entendu tout proche de nous. Chaque fois que vous avez mal agi, il est là, tout proche de vous, et il a gardé le silence. Il est des personnes d'un certain âge, qui lui ont pendant plus de 40 ans jeté leur péché à la face, et ils continuent de garder le silence. C'est terrible cela. Mais on peut parler à Dieu, c'est évident, mais il en va pour celui qui prie comme pour le funambule. Il peut le faire s'il sait le faire. La majorité des hommes, hélas, doivent reconnaître qu'ils ne savent pas prier. Et vous, pourquoi ne pas être honnête et d'admettre également, on peut parler à Dieu si on sait le faire. Mais on ne sait pas le faire. Et c'est là un des traits caractéristiques les plus alarmants de notre époque. que on n'est plus capable de prier et de ce fait, on ne peut plus croire. L'écrivain Franz Werfel a écrit ceci. Le signe distinctif des temps modernes et l'abêtissement métaphysique de l'homme. L'adjectif métaphysique désigne les réalités éternelles qui font partie d'une autre dimension. L'abêtissement métaphysique consiste dans le fait que l'homme est à ce point abruti par la par exemple l'Internet, la télévision, les discussions, la publicité, les idéologies, la politique, les voisins, les tensions au travail, qu'il n'arrive plus à tabler sur la présence de Dieu et la possibilité de lui parler. Peut-on parler à Dieu? Oui, on le pourrait. Si on n'était pas abêti par un siècle de rationalisme. Telle est donc la situation actuelle. Que je me trouve chez un chef d'entreprise ou parmi les ouvriers, l'un se croit trop intelligent pour prier. L'autre est sous la férule de la libre pensée. Nous ne savons plus parler à Dieu. Ce que Franz Werfel, cet homme sensé, appelle l'abêtissement métaphysique, est une affreuse catastrophe. Il n'est pas surprenant que l'on se trouve complètement désemparé au moindre coup dur. Oui, c'est une véritable catastrophe lorsque un homme ne sait pas prier. Tout récemment, j'avais en face de moi un homme intelligent, cultivé, qui me déclare en souriant « Pasteur, cela n'avance à rien de prier. » « Ne dites donc pas de bêtises, répliquai-je indigné. Comment » fit-il ébahi, car il était étonné. Et moi de lui répondre « Vous savez, vous me faites la même impression qu'un amputé de la jambe qui dirait à qui veut bien l'entendre « Cela ne sert à rien de faire du ski. » Comme lui, vous n'y comprenez rien. Si seulement je pouvais vous convaincre de vous retirer en un endroit tranquille et de simplement dire à Dieu « Seigneur, tu sais que la chose la plus élémentaire qu'un chrétien devrait faire, c'est de prier. Et cela, je ne sais pas le faire. Devant l'abêtissement de nos pauvres peuples, je ressens non seulement de la colère, mais aussi une profonde tristesse. Je suis troublé à la pensée que l'Église fait comme s'il allait de soi que les gens savent encore prier. C'est sans doute aussi le cas chez vous à Noël. Eh bien, on voit des gens à l'Église qui autrement, et oui, autrement, n'y mettent jamais les pieds. L'Église est pleine à craquer le jour de Noël. Et lorsque le pasteur dit « Nous allons prier », c'est justement cela qui me trouble. Tout le monde joint les mains et incline la tête. J'aurais alors envie de crier « Ne faites donc pas semblant. Il n'y a pas 1 sur 10 qui prie sincèrement. Vous jouez tous la comédie. » Et ai-je raison ou ai-je tort? Il en va de même lors des cérémonies de mariage ou des enterrements. Le pasteur dit « Nous allons prier » et les hommes restent immobiles leur couvre-chef à la main, pensant que le fait de regarder leur chapeau équivaut à une prière. Et puis, après le service, on va boire un verre, plutôt trois verres. Un soldat américain a dit « On nous oblige à aller à l'église. » Au préalable, l'adjudant nous avait donné les instructions suivantes. Vous gagnerez votre banc sans aucun bruit. Là, vous resterez debout, le casque à la main, et vous compterez lentement jusqu'à 12. Ensuite, vous pourrez vous asseoir. Les gens qui observaient les soldats se disaient « Oh là là, ces hommes prient vraiment avec ferveur, ça fait plaisir de le voir. » Mais en réalité, ils étaient en train de compter lentement jusqu'à 12, souvenez-vous, et ceci avant de s'asseoir. J'ai l'impression qu'à un mariage ou à un enterrement, lorsque on leur dit « Nous allons prier », les gens ne comptent pas même jusqu'à 12. Une profonde tristesse m'étreint à la pensée qu'autrefois, lorsque on disait « nous allons prier », les gens priaient effectivement, et ceci sans jouer la comédie. Le célèbre explorateur d'Afrique, David Livingstone, un des plus grands hommes de l'histoire, connu pour son courage, son intelligence et son érudition, mourut de la façon suivante. Accompagné de ses porteurs indigènes, il parcourait le cœur de l'Afrique. Or, un matin, ses porteurs venaient d'emballer les affaires et de démontrer qu'il pouvait aussi démonter les tentes. Et là, seule la tente de Livingstone était encore debout. C'était la seule. En effet, ses compagnons savaient que le matin, il priait et il parlait à son Dieu. Mais ce jour-là, cela durait plus longtemps que d'ordinaire. Aussi le chef des porteurs a fini par jeter un coup d'œil par une fente de la tente. Et que a-t-il vu? Son maître était toujours et encore à genoux. Ils attendirent alors jusqu'à midi avant d'oser ouvrir la tente. Et là, ils l'ont vu toujours à genoux. Mais son cœur avait cessé de battre. Oui, ce grand homme, ce bel esprit, est donc mort à genoux et en prière. Et le petit bourgeois ose affirmer, cela n'a pas de sens de prier au lieu d'avouer, et si possible les larmes aux yeux, qu'il ne sait plus prier. Livingstone savait prier et il est mort à genoux. Nous, nous mourons à l'hôpital à l'aide de piqûres. Nous ne supporterions pas de mourir si les médecins ne nous administraient pas de stupéfiants. Mais Livingstone n'en avait pas besoin. Il parlait à Dieu. Et c'est en s'entretenant avec lui qu'il est entré dans l'éternité. On peut dire là, Alléluia. Qu'en est-il de la prière en famille? Avez-vous encore le culte de famille? Marie, un jour, Dieu vous demandera des comptes et vous tiendra pour responsable de la perte de votre femme et de vos enfants si vous n'avez pas bien dirigé votre maison. De quelle façon commence-t-on la journée dans votre foyer? Ah ah, vous ne savez pas prier. Que ferez-vous le jour où l'un de vos enfants vous demandera « Papa, ce matin, c'est à toi de prier avec nous. » Un jour, un homme très distingué me demanda de venir le voir chez lui. Là, assis avec sa femme, il me dit « Une chose incroyable vient de se produire. Notre fils de 16 ans rentre un soir de votre réunion de jeunes et nous demande « Mais pourquoi ne prie-t-on pas chez nous ?» Je lui explique « Tout cela, on ne le fait que pour la forme. Il n'y a rien derrière. » Mais il continue à me questionner « Papa, que penses-tu du Saint-Esprit ?» Je n'en pense absolument rien du tout. Et c'est là ce qui fait le malheur de notre famille. Et je peux vous dire, c'est grave, il nous faut un père qui sache demander à Dieu le Saint-Esprit. Tel est le récit que me fit cet homme. Ou si je lui posais alors la question, « Voulez-vous que je passe un savon à votre fils pour avoir été un peu insolent envers son père ?»« Oh, pas du tout. Il me semble que si mon fils a raison, je suis en bien mauvaise posture. Je n'ai pas pu que répliquer la chose suivante. Oui, vous êtes effectivement en mauvaise posture, car votre fils a vraiment raison. C'est aussi ce que je crains, avoua-t-il. Et que dois-je faire ? Subitement, cet homme avait compris qu'il avait manqué à son devoir le plus élémentaire, et ceci en tant que père de famille. Il ne vous suffit pas d'acheter des vêtements à vos enfants et de leur donner à manger. Vous, père, avez une responsabilité plus grande encore. Et apprenez à prier. Dieu essaye d'entrer en contact avec nous. Il le fait par toutes sortes d'événements et d'expériences, mais surtout par sa sainte parole. Mais nous ne savons pas lui répondre. Des vaisseaux fantômes, voilà ce que nous sommes. Or, un jour où je parlais de ces choses, un jeune enfant a demandé à sa mère, « Dis, maman, pourquoi le monsieur a grondé comme ça ?» J'espère que vous comprenez que je n'ai pas l'intention de gronder qui que ce soit, mais que mon cœur déborde de compassion pour notre pauvre peuple en voyant ce qui est advenu de lui, intellectuel et ouvrier, homme et femme, jeune et vieux, se laisse aller. On ne sait plus du tout invoquer Dieu, et pourtant Dieu est tout proche de vous. Bien des gens se disent chrétiens et se réclament même de l'Église, mais ils ne savent pas prier. Au cours de mes visites, je rencontre souvent des personnes qui me disent « Nous sommes très, très pratiquants, monsieur le pasteur. » Car ma mère, sachez, connaissait bien le pasteur Durand. L'avez-vous connu ? Non. Ma mère le connaissait, elle, même très bien. Et moi de leur répondre, « Eh bien, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous irez tout droit en enfer, malgré votre pasteur Durand. » la question primordiale est de savoir si vous savez invoquer le nom de Jésus-Christ, si vous savez prier. Je vous en prie, posez-vous vous-même la question. Est-ce que je sais prier? Est-ce que je prie? Et répondez-y honnêtement. À présent, vous allez peut-être me dire, « Cela suffit, pasteur. Dites-nous maintenant comment apprendre à prier. » Eh bien, chers amis, j'y arrive. Oui, comment apprendre à prier? Essayons de comprendre le cri du nouveau-né. Comment apprend-on à parler? Vous rappelez-vous vos premiers balbutiements? Non? Eh bien, moi non plus. Mais si vous voulez apprendre à prier, il vous faut d'abord pousser le cri du nouveau-né. Je m'explique. Le Seigneur Jésus-Christ raconta un jour l'histoire suivante. Deux hommes se rendirent à l'église, la synagogue, au même moment. L'un des deux était un homme distingué et influent. Il alla se mettre tout devant et se mit à prier. « Mon Dieu, je te remercie de ce que je suis quelqu'un de bien. » Dieu s'était déjà bouché les oreilles, car cet homme pouvait parler autant qu'il le voulait. Dieu n'écoutait plus. Et cela est vrai. Or, l'autre homme était un personnage peu recommandable, on peut bien le dire, un marginal, un peu hors la loi sur les bords. Il faisait du marché noir, de la contrebande ou quelque chose dans ce goût-là. La Bible l'appelle un publicain. Au moment où il pénètre dans l'église, la synagogue, il est saisi par la solennité du lieu et il prend peur. Mais il reste près de la porte et il se dit « Ce n'est pas un endroit pour moi, car au bistrot, eh bien, l'ambiance me convient beaucoup mieux et je me sens à l'aise. Mais par ici, il est sur le point de faire demi-tour, lorsqu'il se souvient tout à coup de la raison qui l'a amené en ce lieu. Il a une profonde nostalgie de Dieu. N'est-ce pas notre cas à tous? Rentrer à la maison chez notre Père, non, il ne peut revenir sur ses pas, cet homme-là. Mais il ne peut non plus avancer davantage. Se rappelant ce qu'a été sa vie, il joint les mains et ne dit qu'une courte phrase. « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » D'après la Bible, les armées du ciel se mirent alors à chanter de joie. Un homme était parvenu à la vie. Le premier cri poussé par celui qui naît de nouveau, par l'homme, car l'homme qui s'est enfin approché de la lumière et de la vérité, ça devient un vrai homme. Et le voici. Il dit, « J'ai péché, ô Dieu, oui, j'ai pitié que je suis un tel homme. » Ou si je te demande, ô Dieu, ta pitié, ta compassion, ta compréhension, car je suis un terrible pécheur. Toutes vos litanies resteront sans effet si, au départ, il n'y a pas le cri du nouveau-né. Je n'ai encore jamais vu un enfant qui s'est mis dès le début à prononcer de très grands discours. Cela commence toujours par le cri du nouveau-né. Et il en va de même pour celui qui entre dans le royaume de Dieu. C'est aussi simple que cela. Ce cri du nouveau-né, l'avez-vous un jour poussé? Non? Alors, pour l'amour du ciel, pour ceux qui ne l'ont jamais poussé, allez-vous recueillir en un endroit tranquille. Ça n'a pas besoin d'être l'église ou la cathédrale. Non, vous pouvez le faire même dans votre cuisine. Mon but n'est pas de faire de la publicité pour une église spécifique, pour une certaine dénomination. Mais j'aimerais arrêter quelques-uns d'entre vous sur le chemin de l'enfer. J'aimerais empêcher quelques-uns d'entre vous de terminer en enfer, bien que la plupart pensent, et en sont même très sûrs, l'enfer n'existe pas. Il n'y a que les imbéciles qui peuvent croire cela. Ah, je voudrais pas être si sûr que cela. On pourrait peut-être un jour se tromper. Attention, on pourrait se tromper, et ça sera pas drôle du tout. Pourquoi pas dire « Cela ne va pas sans le cri du nouveau-né, car j'ai péché. Ô Dieu, aie donc pitié de moi qui suis un pécheur. » Voyez-vous, lorsque le fils prodigue revint à la maison, la première chose qu'il dit en voyant son père a été « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. » Et à l'instant même où vous prononcerez ces paroles-là, Jésus, le Fils de Dieu, viendra au-devant de vous et vous dira, « Mon ami, je suis mort pour tes péchés. J'ai versé mon sang précieux pour te laver de tous les péchés, de toute souillure. Tu peux maintenant tournez la page, car j'ai payé la dette. » Oui, seul un enfant de Dieu sait vraiment prier. Il faut donc que vous deveniez tout simplement enfant de Dieu. Vous ne l'êtes pas par nature. Vous avez peut-être un vernis chrétien, mais vous n'êtes pas enfant de Dieu. On ne devient enfant que par la naissance. Et on ne devient enfant de Dieu que par la nouvelle naissance. Il faut que vous deveniez enfant de Dieu et vous saurez alors prier. Un enfant de Dieu ne peut plus vivre sans la prière. Pour lui, la prière est un peu comme la respiration. Mes jeunes, ou les jeunes, plaisantent souvent en se disant l'un à l'autre « N'oubliez pas de respirer. » Et vous, vous négligez la respiration de l'âme, car il n'y a pas que la respiration du corps, il y a aussi la respiration de l'âme. Et ça, c'est la prière. Il vous faut absolument devenir enfant de Dieu. Je vais vous dire en peu de mots comment on le devient. Uniquement, par Jésus-Christ. Ce n'est pas par Bouddha, ce n'est pas par Mohammed, ce n'est pas par une éminence haut placée, ce n'est pas par le président Obama ou Sarkozy. Voyez-vous, il faut faire attention à tout cela, car il y en a un seul qui a dit « Je suis la porte ». Celui qui entre par moi sera perdu. Non, il a dit « Celui qui entre par moi, par cette porte-là, sera sauvé. » Gloire à Dieu. À travers l'épais brouillard de ce monde, Jésus s'approche de vous. Oui, Christ, cet homme portant les marques des clous sur le corps, il s'approche de vous. Jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas soucié un instant de lui. Ce qu'on vous disait de lui vous semblait déraisonnable et même insensé. Pourtant, il vient là, à votre rencontre, et il se peut que vous saisissiez soudain qui il est. Toi, l'homme, femme, venu d'une autre dimension. Toi, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Il y a aussi les anges, les archanges, les chérubins. Toi, le Fils de Dieu, tu n'es nul autre que mon Sauveur. Et ça, c'est important de nous rappeler. Il est notre Sauveur. Le premier pas que j'ai à faire pour devenir enfant de Dieu, donc, c'est de reconnaître en Jésus-Christ mon Sauveur personnel. Le second, c'est de l'adopter, adopter à son égard une attitude, une autre attitude, c'est-à-dire une attitude de confiance, car il peut mettre de l'ordre dans ma vie, il peut me délivrer de mon angoisse, de mon sentiment de culpabilité, des péchés de ma jeunesse. Dans l'Ancien Testament, il y avait un homme de Dieu qui s'est écrié « Tu prends soin de mon âme ». Tout d'un coup, on arrive à faire confiance à Christ, au point de rompre avec le passé et de remettre toute sa vie entre ses mains. C'est ce que nous appelons la conversion, ou si vous voulez, la nouvelle naissance. Et c'est ce que j'ai vécu lorsque j'ai mis fin à ma vie de péché pour me livrer à Christ. Personne n'a pu le faire à ma place. Et moi, je ne peux non plus le faire à votre place. Il faut que la chose se fasse entre vous et Dieu. Risquez le coup et dites-lui simplement « Prends ma vie, elle doit être à toi seul, au divin maître. » Et à l'instant même où vous faites ce pas, eh bien vous devenez enfant de Dieu. En dépit de l'avis de ceux qui pensent qu'on peut être sauvé d'une autre façon, eh bien, je répète, il n'y a qu'une seule porte qui vous permette d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ, mort et ressuscité pour vous. Faites donc ce pas vers lui, et il vous accueillera. Ce n'est pas le colonel Kadhafi qui va le faire pour vous. Je plaisante. Et une fois enfant de Dieu, chers amis, vous saurez prier. Votre misère prendra fin, car vous pourrez épancher votre cœur en la présence de Dieu et vous pourrez lui parler comme un enfant à son papa. Je suis convaincu que chaque homme cache au fond de son cœur un secret qu'il traîne partout avec lui. Mais lorsque je deviens enfant de Dieu, je peux ouvrir mon cœur à Jésus-Christ et lui confier mon secret, le péché que je ne peux pas lâcher et ma relation douteuse, La faute peut-être dont le souvenir me hante. Je peux lui dire ce que je n'oserais jamais confier à aucun homme ou aucune femme. Chers amis, comment donc pouvoir vivre quand on ne peut plus croire? Ça, c'est un terrible problème. Il faut d'emblée que je vous le dise. Sans la foi, il est impossible de se tirer d'affaire dans la vie. Et je ne sais que conseiller, car on ne peut rien pour celui qui ne croit pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous, Dieu n'est peut-être qu'un concept théologique, qu'une idée philosophique, ou qu'une force de la nature. Mais en fait, Dieu est une personne. Il vit réellement et remplit tout en tous. Et si je ne suis pas en paix avec Dieu, si je ne suis pas en règle avec lui, si je ne suis pas son enfant, eh bien, je passe à côté de la réalité. Et ça, c'est dangereux. Un des psaumes de la Bible dépeint d'une façon particulièrement saisissante cette réalité de Dieu. Quoi qu'on fasse, on ne peut lui échapper. Si je monte aux cieux, au ciel, eh bien tu y es. Et l'astronaute américain John Glenn a déclaré que ce qui l'avait le plus bouleversé dans sa capsule spatiale, c'était la pensée « Dieu est aussi là ». Si je monte aux cieux, ou si je file dans l'espace, Dieu y est. Si je m'enfouissais, oui, si je m'enfouissais à plus de 1000 mètres de profondeur, par exemple dans une galerie la plus basse d'une mine, je rencontrerai Dieu. Car le psalmiste va jusqu'à dire, si je me couche au séjour des morts, eh bien, t'y voilà. Donc, si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, eh bien là aussi, ta main me conduira. Oui, Dieu est la grande réalité. Et parce qu'il est la grande réalité, je ne peux le laisser de côté, tout simplement et impunément. Si je vis sans tenir compte de son existence, et en méprisant ses commandements, en ne sanctifiant pas le dimanche, en commettant l'adultère, en mentant, en n'honorant pas mes parents, et en rendant jamais gloire à Dieu, eh bien je passe totalement à côté de la réalité. Et il m'est alors impossible de me tirer d'affaire dans la vie. Regardez un peu autour de vous. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir, même ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Ils sont profondément inquiets. Rien ne va dans leur vie privée. Et tout va de travers dans leur vie de famille. Comment donc vivre quand on ne peut plus croire? Eh bien, on n'arrive pas à se tirer d'affaire dans la vie et on est démuni, évidemment, face à la mort. Sans aucun doute, d'ici X années, eh bien, plus aucun de nous ne sera là. Nous serons tous passés de l'autre côté. Et si vous pensez, une fois dans la tombe, il n'y a plus rien, eh bien, nous sommes bel et bien morts, terminés. Réfléchissez donc un peu, croyez-vous vraiment, comme me l'a dit une dame quand je suis allé arroser la tombe de ma défunte épouse, elle m'a dit, vous savez, nous sommes comme les rats. Quand on est mort, on est bel et bien mort et c'est terminé, exactement comme le rat. Voyez-vous, à qui se fier ? À son propre cœur ou à la parole de Dieu ? Comment réagir face à la mort ? Si la pensée s'impose à vous, je ne peux rien emporter de tout ce que j'ai amassé. On a construit une petite maison. Pas moi, bien sûr, mais vous peut-être, et tant mieux. Moi, j'ai une belle bibliothèque, c'est tout. Mais de tout ce qui m'est cher, croyez-moi ou pas, je ne peux absolument rien emporter. Et de tous ceux qui me sont chers, je ne peux amener personne dans l'au-delà. Il n'est qu'une chose que l'on emporte avec soi dans l'éternité, c'est sa culpabilité devant Dieu. Imaginez-vous un instant sur votre lit de mort. Soudain, la pensée vous vient, « Eh bien, il va falloir tout laisser derrière moi, tout sauf les transgressions et les péchés commis depuis ma jeunesse. » Et mes fautes me suivront jusque en la présence du Dieu saint et juste. Comment vous en sortir devant le tribunal de Dieu sans la foi en celui qui justifie l'impie? Ne l'oubliez jamais. Il vous faudra un jour comparaître devant lui. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est pourtant si miséricordieux, a dit un jour, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Pourtant, ces gens-là me feraient peur. » Et il dit encore ceci, « Ne les craignez pas. Je vous montrerai qui vous devez craindre. » Craignez surtout celui qui a le pouvoir de jeter dans la piscine, non, dans l'enfer. Et comme s'il en avait des frissons dans le dos, Jésus-Christ répète, « Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre, c'est Satan. » Il y a de cela quelques années, vivait en Norvège un célèbre professeur qui avait le nom de Hallesby. C'était un homme extraordinaire, vraiment un de ces Norvégiens placides et graves. Pendant toute une semaine, il a parlé chaque soir à la radio. Je n'ai pas de peine à l'imaginer devant le microphone, quand il a dit « Il se peut, chers frères et sœurs et chers amis, que ce soir, vous vous endormiez paisiblement dans votre lit, mais que demain matin, vous vous réveillez en enfer. » C'est pas drôle d'entendre cela, et je vois déjà des chrétiens de nom qui vont tous les dimanche, à la messe ou à l'église, qui disent « Mais il est fou celui-là !» Eh bien, je voudrais vous avertir quand même. Ces mots ont déclenché une tempête de protestation, car les Norvégiens sont tout à fait dans le vent, et ils jouent dans notre monde moderne un rôle fantastique, certainement pour le moment un peu mieux que nos voisins qui sont à la banqueroute. Vous savez de qui je veux parler, ce pays qui fait faillite. Or, un journaliste du plus grand quotidien d'Oslo a publié un éditorial dans lequel il dit à peu près ceci. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Il est tout à fait inadmissible qu'une institution moderne comme la radio et la télévision soit utilisée pour dépiter de telles balivernes, excusez du mot vulgaire qu'ils ont dit, des imbécilités. Et lorsque un grand journal sort un article de ce genre, toutes les petites publications s'y mettent à leur tour. La presse tout entière répétait donc « Nous ne sommes plus au Moyen-Âge ». Comment un professeur célèbre peut-il encore parler de l'enfer ? Tant et si bien que la radio d'Oslo pria le professeur Hallesby de faire une mise au point. Ce dernier revint donc devant le micro et voici ce qu'il a dit. Je dois tirer cette affaire au clair. Eh bien, soit. Il se peut que ce soir, vous vous endormiez paisiblement dans votre lit et que demain matin, vous vous réveillez en enfer. Je voudrais vous avertir. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On interrogea tous les évêques de Norvège. L'enfer existe-t-il vraiment ou non? Même le magazine d'information Der Spiegel, en Allemagne, a repris l'affaire à son compte et a publié un très long article sur la querelle de l'enfer. Un an à peine après cette histoire, un pasteur allemand vint à Oslo parler aux étudiants et faire le soir quelques réunions publiques. En arrivant, le pasteur a dû tenir une conférence de presse. Les reporters des différents journaux s'étaient donc réunis à son hôtel. Et on l'interrogea. Aussi un journaliste en question attaqua le premier. « Dites voir, pasteur, je suis totalement en désaccord avec le professeur Hallesby. Vous, vous êtes un homme moderne. Encore jeune, à votre avis, l'enfer, existe-t-il, oui ou non ? Mais bien sûr, répondit le pasteur, l'enfer existe bel et bien, cela va de soi. Ah, ça alors, je ne comprends pas que vous puissiez affirmer une chose pareille. Et le pasteur a repris. Je vous expliquerai très volontiers le pourquoi. Car je crois que l'enfer existe parce que Christ l'a dit. C'est écrit noir sur blanc dans sa sainte parole. Et voyez-vous, moi je me fie sans réserve à la parole de Dieu. Et il en savait plus long sur ce sujet que tous les gens sensés. Oh oui! Croyez-moi, Jésus-Christ en savait beaucoup plus long que tous les autres. Or, la parole de Dieu nous dit, Dieu veut que tous les hommes soient perdus. Non, vous avez mal entendu. La parole de Dieu dit que Dieu veut que tous les hommes, les femmes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est parce que Dieu nous a indiqué comment vivre et comment mourir que j'insiste sur la nécessité de la foi. Comment vivre et me tirer d'affaire si je ne peux plus croire? je suis absolument incapable de m'en sortir tout seul. Voyez-vous, c'est le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre et qui nous a créés, nous aussi. Toute vie émane de toi. Ainsi commence un hymne suisse. Dieu est notre élément. Et aussi longtemps que je n'ai pas la paix avec Dieu, je peux toujours donner à mon âme une cage dorée. Vous voyez ce que je veux dire. L'homme d'aujourd'hui donne à son âme tout ce qui lui paraît désirable. Des plaisirs, des voyages, de la bonne chair et du bon vin, du champagne. Mon âme se débat et me dit « Tout cela, au fond, je n'en veux pas, car je veux être dans mon élément, je veux la paix avec Dieu. Ne soyez donc pas si cruel avec vous-même, chers amis. Votre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il ait trouvé le repos dans le Dieu vivant. Comme le poisson veut être dans son élément, eh bien votre âme veut être à Dieu pour être dans son élément. C'est pas tout à fait comme cette gère chrétienne qui va à la messe tous les dimanches, qui m'a dit « On est exactement comme le rat. Quand c'est fini, c'est terminé. » Eh bien, comment s'en sortir, cher ami, si l'on ne peut plus croire? Je ne peux que répondre ceci. On ne s'en sortira jamais, ni dans la vie, ni dans la mort, ni dans l'éternité. Et si vous objectez, dans l'ensemble, les gens s'en tirent pas trop mal, eh bien, je vous dirais, c'est à voir. Est-ce que les Grecs, à l'heure actuelle, se sortent très bien? J'en suis pas si sûr. Prenez un homme comme Goethe. Il était beau, il était riche, il était ministre, et il était intelligent. Bref, il avait tout ce qu'on peut souhaiter. Mais, voyez-vous, vers la fin de sa vie, il avoua à Eckermann que s'il additionnait ses heures de bonheur, il n'arriverait pas à un total de 3 jours. Il n'avait donc pas la paix. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'en sortir sans la foi. C'était la première chose que je voudrais vous dire. Et voici la deuxième. Il est important, très important, d'avoir la véritable foi. Ce qui importe, en effet, c'est que vous ayez la vraie foi, celle qui sauve. Et il est vrai que tout homme, femme, croit en quelque chose. J'ai demandé à une dame âgée, « Madame, est-ce que vous me permettez de vous demander comment va votre santé ?» Elle a répondu très rapidement du reste, en tapotant la table qui était en ébène. « Eh bien, moi je touche du bois, et encore du bois d'ébène. « Excusez-moi, répliqua, c'est ce que j'ai répliqué, excusez-moi, mais pourquoi dites-vous pour autant que je touche du bois ?»« Eh bien, pour éviter que cela me porte du malheur, voyons, en touchant du bois, eh bien, j'évite le malheur. »« Ah bon ? » ?»« Vous avez rejeté, me semble-t-il, la foi au Dieu vivant, mais curieusement, vous avez la foi dans le fait de toucher du bois, puis encore, du bois d'ébène. C'est étrange. sans doute avez-vous gagné au change. » À ce moment-là, j'ai compris qu'au fond, chacun a une certaine foi. Il y en a qui ont la foi dans des amulettes, d'autres dans le billet de loterie qu'ils viennent de prendre. Reste à savoir si c'est la véritable foi, la foi qui sauve. Le billet de loterie peut sauver pour peut-être avoir une vie plus riche, plus joyeuse, et un yacht ou une Rolls-Royce. Mais voyez-vous, l'essentiel, c'est la véritable croyance. Et on ajoutera, il vaudrait mieux que nous puissions croire à Dieu, mais pas comme certains disent, au bon Dieu, une sorte de bon Dieu. Il y en a qui disent, je crois à la nature. Encore un autre, il croit au destin. Ou encore un autre, il croit à la providence. Je répète un peu tout cela. L'essentiel, c'est ce que disent presque tous, c'est de croire à quelque chose. Et l'un ajoute, moi je crois au bon Dieu, l'autre je crois à la nature, un autre encore je crois au destin ou je crois à la providence. Non, mes chers amis, l'essentiel, c'est d'avoir la véritable foi, une foi qui apporte la paix avec Dieu, la paix du cœur et de l'âme. Il me faut une foi qui sauve de l'enfer. Oui, une foi dont je ressens les effets dès maintenant parce qu'elle me donne une vie nouvelle. Sinon, je fais fi de la foi. Je balance tout. Et bien des gens, à une certaine époque, ont cru, souvenez-vous, ceux qui sont très âgés, ont cru en l'Allemagne, das große Deutsche Reich. Ils ont cru à leur Führer et à la victoire finale. Mais qu'en est-il advenu? Ne voyez-vous pas, chers amis, qu'il existe une fausse foi? Oui, chers amis, il vous faut la véritable foi, celle qui sauve. Mais la vraie foi, la foi qui sauve, c'est en un mot la foi en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. La foi en Jésus-Christ et pas la foi en un fondateur de religion. Ils sont déjà bien trop nombreux, mais la foi en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans la Bible, on nous raconte une très belle histoire qui illustre bien ce que veut dire la foi en Jésus-Christ, la foi qui sauve. Voyons un peu cela. Suivez-moi en pensée. Il y a 2000 ans, hors des portes de la ville de Jérusalem, sur une colline appelée le Calvaire, le lieu du crâne. Ne prenez pas garde à la foule qui là hurle et qui crie. Et ne faites pas attention aux mercenaires romains qui montent la garde et qui se partagent les vêtements des condamnés en tirant au sort. Mais levez un peu les yeux. Sur la croix du milieu est cloué le Fils de Dieu, le visage ensanglanté par la couronne d'épines qu'on lui a enfoncé dans la tête. Oui, c'est terrible. Et à sa gauche, il y a un deuxième. Et soudain, on voit que la nuit tombe. La mort également approche. Et voilà que tout à coup, l'un des deux meurtriers se met à crier « Écoute-toi, là, au milieu. Tu as dit que tu étais le Fils de Dieu. Si c'est vrai, si tu n'es pas un menteur, alors descends de la croix et sauve-moi, moi aussi. » C'est facile à comprendre. Au moment de mourir, l'homme dit des choses qu'il ne dirait pas autrement. Ensuite, c'est l'autre meurtrier qui, lui, prend aussi la parole. Il s'adresse à son compagnon et lui dit « Tu ne crains donc pas Dieu ? Car c'est par là qu'il faut commencer, c'est de reconnaître que Dieu, oui, que Dieu est saint et que sa colère peut être terrible. » Lorsque, pendant la dernière guerre, les bombes tombaient sur des villes, les gens étaient déconcertés. Peut-être est-ce la faute des églises si personne n'a averti. Que pensez-vous des terribles catastrophes actuelles? Pensez-vous vraiment que c'est là tout du hasard? Non, Dieu juge un jour cette terre. Il peut laisser faire longtemps. Aussi, je te demande, ne crains-tu toujours pas Dieu? On devrait le crier sur les toits de nos grandes villes. Ne craignez-vous toujours pas Dieu? Oui, ne craignez-vous toujours pas Dieu? On voudrait le dire aux jeunes qui vivent dans l'impureté.